Bon vendredi, c'est votre émission Les Voix de Service Magazine. C'est Catherine au micro parce qu'Hélène, malheureusement, ne pouvait être des nôtres, mais on espère que vous allez quand même apprécier cette heure avec nous. Pardon, pardonnez-moi. On est le 6 avril, on n'est pas vraiment au printemps, peut-être qu'on va y arriver un jour, mais au moins le soleil nous accompagne ce matin. Je ne suis pas seule en studio, Francine Forget est avec moi. Bonjour Francine.
Bonjour Catherine, vous allez bien?
Oui, certainement, certainement. Moi, je le sens le printemps, Catherine.
Oui?
Oui, oui, il s'en vient.
Moi aussi, je le sens.
Il s'en vient.
Mais oui, oui. Hein, les vêtements le sentent peut-être un peu moins.
Bah!
Alors, que lisez-vous ce matin pour nous?
Je vais sortir un petit peu de mon champ d'expertise. Je vais aller du côté du français, de notre chère langue. Aussi, évidemment, je vais revenir au techno. Mm-hmm. L'inévitable sujet Facebook et ce qu'en pensent certains experts de chez nous là, de toute cette polémique autour de Facebook.
Intéressant. De mon côté, je vais commencer la lecture de la nouvelle édition de Nouveaux Projets, ce magazine très diversifié qui se pose des questions sur notre société. C'est le 13e numéro cette fois-ci, il vient tout juste de sortir, et c'est sur la qualité de vie. Donc, vraiment, le numéro est consacré entièrement sur la qualité de vie et je vais vous présenter l'introduction de l'éditeur en chef. Voilà. Alors, je vous laisse débuter, Francine.
Bien, merci, Catherine. Paul Roux, qui est un ancien conseiller linguistique à la presse, d'après ce qu'on comprend en vacances à Nice, a écrit cette opinion qu'il a intitulée « I love le français » dans la presse plus du 3 avril 2018. « I love Nice », bien sûr, où je passe un mois merveilleux. Mais j'aimerais encore davantage la ville si elle ne faisait pas sa promotion en anglais. J'aime Nice. Il me semble que ça serait pas si difficile à comprendre, même pour des étrangers. Après tout, ils viennent visiter la France, pas la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Mais sur la Côte d'Azur, comme un peu partout en France, on a capitulé devant l'anglais, langue universelle du tourisme et des affaires. Ici, on dirait plutôt du business. Pourtant, le français occupe une position plutôt enviable, comme l'a rappelé le président Macron devant l'Académie française à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Notre langue occupe le 5e rang mondial, le 4e sur la toile. Elle est la seule, hormis l'anglais, qui soit parlée sur les 5 continents. C'est aussi la 2e langue la plus apprise dans le monde, juste après l'anglais. Mais quand on séjourne longuement dans l'Hexagone, comme il m'arrive de le faire, ce n'est pas l'impression que l'on a. Il n'y a pas que les villes qui font mousser leur charme in English. La langue de Donald Trump a envahi la publicité à un point qui ferait sursauter les Québécois les plus anglicisés. À la télé, par exemple, il est fréquent de voir des réclames dont le slogan est carrément anglais. Inspired by happiness, innovation that excites us, always fun, etc. Ici, apparemment, ça n'indispose personne. La chanson française, pourtant immense, est en train d'être bouffée tout rond par la chanson anglo-américaine. La dernière fois où j'ai entendu une chanson française dans un film, c'était dans un film américain. Dans le cinéma français, c'est une espèce disparue. Pas en voie de disparition, disparue. Dans The Voice, que je regarde tous les samedis soirs sur France 1, la moitié des participants chantent en anglais. Il est vrai que l'émission a gardé son titre américain, mais il a tout de même pour sous-titre « La plus belle voix de France ». Ça ne paraît pas. Dans les restos ou les cafés, on n'entend jamais chanter en français. La seule fois où j'ai entendu une chanson française en un mois, c'est une chanteuse de rue dans le Vieux-Nice qui avait repris une chanson de Piaf. À Nice, comme à Paris ou à Lyon, on voit aussi de nombreuses raisons sociales en anglais. Et là, je ne parle pas des sociétés internationales comme Starbucks ou McDonald's, qui ont bien entendu conservé leur omniprésente appellation anglaise. Non, je pense à de petites boutiques locales qui se sont données une dénomination anglaise, rue Bonaparte par exemple, où il n'y a pourtant pas beaucoup de touristes. Une épicerie s'appelle Bonap Market. Ailleurs, un gymnase se nomme Keep Cool. un prêt-à-porter Hazerland, une boutique Nature House, et je pourrais allonger la liste. Devant de tels exemples, j'hésite entre la surprise, l'incrédulité, l'indignation, l'exaspération ou la déprime. En fait, j'éprouve un mélange de tout cela. C'est amer et indigeste. Je ne le dis pas en tant que Québécois, car j'estime que nous sommes plutôt mal placés pour faire la leçon aux cousins. Je le dis en tant que francophone et surtout en tant que francophile passionné. Je ne suis pas anglophobe. Je suis heureux de parler anglais. Mais j'estime que cette langue occupe en ce moment une place démesurée. On se préoccupe beaucoup et avec raison de la diminution de la biodiversité. L'anglais, lui, fait courir une grande menace à la linguodiversité. Cela m'insupporte particulièrement dans un pays comme la France, car non seulement le français est-il une des plus belles langues du monde, mais il a engendré une des plus grandes cultures. Pour sa part, le chef de l'État français voit grand pour le français, cette langue archipel qu'il aimerait voir passer de la 5e à la 3e place mondiale. La chose n'est pas impossible. On estime en effet que la langue de Molière est maintenant parlée par 275 millions de personnes, chiffre qui pourrait grimper à 700 millions d'ici à 2050, notamment grâce à la démographie galopante de l'Afrique. Mais avant d'applaudir trop fort, il faut se rappeler, comme le soulignait la chroniqueuse Lisiane Gagnon récemment dans la presse, que s'il est vrai que le français est la langue officielle de nombreux pays africains, c'est la langue des élites et non des peuples. Le statut de notre langue en terre d'Afrique reste donc fragile, menacé par l'anglais, mais aussi par l'arabe et même par le chinois. Emmanuel Macron aimerait également stimuler le français dans les enceintes internationales, notamment dans l'Union européenne et aux Nations unies. Encore ici, j'aimerais bien crier bravo. Mais attention de voir les résultats, car pour l'heure, comme le déplorait récemment la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, notre langue y est plutôt en recul. Bref, le français a peut-être un bel avenir devant lui, mais encore faudrait-il se préoccuper de son présent. Une opinion de Paul Roux dans la presse plus du 3 avril 2018.
S'il faut abattre la bête pour être renaître soi, j'irai me terrer au fond des bois avec ma rage comme le tout dernier rempart à la douleur de mourir encore une fois. L'amour est un piège à ours. L'instinct la retient par un fil. Mais tu veux tuer la guerre en moi, déchirer la chair indocile. Avec tout autour, je les entends, tous ces gens armés jusqu'aux dents. Et je résiste encore une fois. L'amour est un piège à ours. L'amour est un piège à ours. brassard de liberté. Et tout relâche et brise enfin. Le sang chaud à la lie du vin. Je me relève et je marche de revers jusqu'à toi. Tous les chemins sont mon chemin.
David Portalance et sa chanson Piège à ours.
Vous êtes de retour avec nous. On vous lit des articles pour encore quelques minutes jusqu'à 10 heures ce matin. Je vous lis l'introduction de nouveaux projets de Nicolas Langelier, qui est l'éditeur en chef de ce magazine qui vient tout juste de sortir, qui est sur la qualité de vie. Je trouvais intéressant de vous lire cette introduction pour vous mettre un peu dans le bain des prochaines semaines qui traitera de la qualité de vie. Et c'est très intéressant, ça fait plusieurs pages, ça va comme suit, ça s'appelle « Revenir à la maison ». Les périples est une boucle, pas une ligne droite qui nous éloignerait toujours plus du point de départ. L'objectif est de revenir, mais mieux. Ulysse quitte Ithaque et il revient à Ithaque. Le chemin du retour à la maison, à notre âme véritable, n'est pas aisé. Souvent, il se fait à travers le froid obscur et la désolation vide, décrit par T.S. Eliot dans son poème « East Coaster ». Coker, pardon. La conclusion de ce périple est inscrite en nous dès le départ. Et une insatisfaction perdura tant que nous n'y serons pas arrivés consciemment, librement. La nostalgie sert le signe de cette insatisfaction en même temps que sa boussole, son étoile polaire. Elle prendra différentes formes, tristesse, dépression, solitude, soif de diversion, de toutes sortes. Cette nostalgie, c'est le vide en forme de Dieu dont parlait Blaise Pascal. C'est ce trou dans notre âme qui nous cherchons à combler en nous y prenant souvent de la pire manière possible. La terrasse du café, délimitée par une paroi en bois de grange, est remplie de gens qui sirotent leur latte, grignotent leur danoise au cheddar, leur scone au babeur, canneberge et orange. Une chanson de Sade s'écoule doucement des haut-parleurs. Au sol, le carrelage en marbre étincelle. Il y a des plantes vertes et une impression générale de plaisir de vivre. Avec un certain effort d'imagination, on pourrait presque se croire dans un endroit reconnu pour sa qualité de vie. Portland, Melbourne, ou chez les Danois, justement. On est plutôt au milieu d'un centre d'achat de l'est de Montréal, par un dimanche après-midi de février. Dehors, des bourrasques de neige soufflent. La neige des pylônes disparaît dans la blancheur, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de profiter des bonnes choses. L'économie québécoise tourne à plein régime et le stationnement déborde. Les centres commerciaux se meurent, lit-on de plus en plus souvent dans les magazines d'affaires. De toute évidence, The Economist n'a pas mis les pieds aux galeries d'Anjou. Je vis ici depuis toujours. Lors de mes premières visites en poussette, le centre était tout neuf. À son ouverture, 5 ans plus tôt, encore entouré de champs ancestraux, la terre des Vanier, celle des David, on avait vanté l'arrivée d'un des plus grands et des plus remarquables centres du genre au Canada. Avec ses 85 magasins et ses 4000 places de stationnement, il était à l'avant-garde d'une nouvelle conception de la qualité de vie et restera le plus grand établissement de ce type à Montréal durant près de 2 décennies. Mais cette année, les galeries d'Anjou ont 50 ans. Il y a longtemps que les standards de 1968 ont été déplacés. Le sommet de la volupté ne pourrait plus être, comme ce l'était pour ma mère à la fin des années 70, d'aller chercher du saucisson à l'ail à la charcuterie dans l'allée de Steinberg. Un lieu commercial sans le moindre espresso, les frites molles du comptoir pique-nique. Non, merci. Nous voulons plus, nous voulons mieux, et nous le voulons en beaucoup plus de variété. Le centre d'achat a dû, au fil des décennies, faire des efforts incessants pour s'adapter. Avec maintenant 175 commerces et 6000 places de stationnement, l'hédonisme version 21e siècle bat dans son plein dans un million de pieds carrés. Il y a, par exemple, une nouvelle section baptisée « Avenue des saveurs », où une douzaine de restaurants entourent un aménagement de tables et de chaises au design étudié, sous des luminaires sophistiquées et de grandes ouvertures vitrées au plafond. La place Tévert de mon enfance est maintenant installée ici, mais elle s'appelle désormais Trattoria Tevere et des focaccia et des salades se sont ajoutées au menu. Il y a une succursale de Nespresso, une autre de David City, un comptoir à sushi. Tout est neuf, reluit. Les détaillants qui n'ont pas su s'ajuster à notre constante recherche de plaisir n'ont pas survécu. Ainsi, au bout de l'allée ajoutée en 1976 expressément pour l'accueillir, l'immense magasin de Sears est fermé depuis l'automne dernier. Et gît au bout de son allée, sombre et vaguement menaçant d'une manière qui fait penser au vaisseau spatial dans Arrival, gigantesque monument à une époque où les consommateurs acceptaient encore de fréquenter un commerce proposant à la fois des sous-vêtements et des tournevis. Au fil du dernier demi-siècle, les succursales locales d'Easton, Simons, Greenberg, Miracle Mart et bien d'autres chaînes ont subi le même sort. Elles ont laissé place à plus raffinées qu'elles. Les galeries d'Anjou comptent maintenant une boutique d'accessoires de yoga, un salon de manicure et de pédicure promettant une expérience rafraîchissante, relaxante et luxurieuse. Un kiosque offrant une collection de produits pour la peau et le spa fabriqué avec les antiques, voire mystiques bouts, sels et minéraux que l'on peut trouver à un seul endroit sur Terre, la mer morte. Le fauteuil du cireur de chaussures a disparu. Aujourd'hui, quand nos souliers ont besoin d'être cirés, c'est qu'il est temps d'en acheter de nouveaux. Il y a une succursale d'une chaîne de restos pub à la mode dans les banlieues. Au service de la clientèle, on offre la possibilité de réserver les talents d'un styliste personnel. Et tout ça est désormais accessible 7 jours sur 7, jusqu'à 21h tous les soirs de la semaine. À une époque qui semble maintenant appartenir à une autre ère géologique, mon père, peu doué dans l'art d'occuper des enfants, nous amenait parfois ici le dimanche, ma sœur et moi, même s'il n'y avait rien à faire, seul le petit cinéma était ouvert. Nous allions donc devant l'une des fontaines pour essayer de repêcher des pièces de monnaie. Mais même les fontaines ont aujourd'hui disparu, les instants de contemplation qu'elles offraient ayant été jugés moins utiles et lucratifs que des kiosques de téléphonie mobile et de gélatine. Le cinéma aussi a disparu d'ailleurs, n'ayant rien pu résister à l'arrivée des multiplexes offrant 8 films différents et des tables de air hockey. Depuis la terrasse du Starbucks, ça sent les pretzels chauds et l'eucalyptus et les parfums promus par des célébrités, odeurs riches d'une époque riche en sensations. Faut pas que j'oublie d'acheter des ramequins pour les crèmes brûlées, dit une adolescente à son amie à la table d'à côté. Même les filles de lait sont devenues les apôtres d'un meilleur art de vivre. Les 50 dernières années ont été marquées par une abondance sans précédent. Le Québécois moyen vit aujourd'hui dans un confort bien supérieur à celui de la fin des années 60. Et on pourrait dire la même chose du Chinois, du Tunisien, du Polonais moyen, et d'un peu tout le monde sur Terre. Au cours du dernier demi-siècle, l'économie a continué de croître. Elle s'est mondialisée, s'enrichissant de milliards de nouveaux membres de la classe moyenne, de Mexico à Bangalore, même à Séoul. La productivité a fait des gains remarquables portés par l'informatisation et la robotisation. Les taux de pauvreté et de criminalité sont à la baisse depuis des décennies. De nombreuses maladies battent en retraite quand elles n'ont pas carrément été éradiées. L'espérance de vie ne cesse de s'allonger et de plus en plus de gens parlent sérieusement d'étendre notre qualité de vie jusqu'à 150, 175 et même 200 ans.
Les bottes usées par la poussière, a trop marché sur les cailloux. Jour après jour, je laisse derrière une ombre qui tombe à genoux. J'ai accroché à ma ceinture un vieux couteau, un peu d'argent. De quoi survivre à l'aventure et continuer plus loin qu'avant.
je me laisse aller où la route mène à l'oublier, où la route mène, je me laisse aller où la route mène à l'oublier, où la route mène. Dans des villages déserts, l'air est si chaud que tout se taire. Des rivières sales courent vers la mer, des hyènes détalent vers leur tanière. Le jaune est roux dans les canyons, ma soeur se noue avec la terre. Dans les cabanes qui se façonnent, les enfants jouent à faire la guerre. Je me laisse aller. Aller où la route mène à l'oublier, où la route mène.
Daniel Lavoie est une de ses chansons. Voyons, j'ai perdu mon titre. Là où la route mène.
Alors, ma chère Catherine, comme vous le savez, hein, il y a un scandale Facebook, on peut dire ça comme
oui.
ça. Facebook a fait son mea culpa, promet de renforcer sa sécurité. Des experts d'ici se prononcent. Fanny Lévesque, dans la presse plus du 5 avril, nous rapporte leurs propos. Facebook peut bien continuer de se servir des habitudes de ses utilisateurs pour mieux cibler la publicité, mais il doit en contrepartie renforcer ses règles de responsabilité et les étendre à tous ses partenaires, estime Vincent Gautret, qui est titulaire de la chaire Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique de l'Université de Montréal. Il dit que Facebook dit qu'ils veulent collecter autant de données qu'avant, ça ne me dérange pas forcément. Sauf qu'ils n'ont pas le choix d'être surveillés, d'être stricts quant à la finalité de ces données. Il y a un principe de base en matière de vie privée, et c'est la finalité. On ne peut pas, sans le consentement, changer la finalité de la donnée collectée. Selon lui, des organismes de type étatique, notamment, devraient scruter les acteurs comme Facebook à la manière d'un contrôleur financier, par exemple. Facebook, une plateforme gratuite, n'a d'autre choix que de continuer à se nourrir de ses utilisateurs, parce que ces données sont son or, son pétrole, illustre Guillaume Latito, Tott, professeur en communication à l'Université Laval et chercheur au laboratoire de communication médiatisée par ordinateur. Selon lui, les explications de l'entreprise californienne fournies hier, donc mercredi, servent d'abord à arrêter l'hémorragie et à rétablir la confiance de ses abonnés. Il y a toujours le risque de désertion. Ce sont des géants au pied d'argile, dit-il. Par ailleurs, la stratégie de garder les données pour son propre usage et d'en restreindre l'accès aux tiers est peu crédible, pense-t-il, dans le contexte où c'est l'utilisation qu'on en fait qui doit être réglementée. Ces données en apparence inoffensives, recoupées avec d'autres bases de données, peuvent devenir totalement imprévisibles. À mon avis, soit on ferme les vannes, soit on les ouvre. Mais si on les ouvre, ça peut suffire à créer un dégât d'eau. Un autre point de vue, pour Madeleine Pastinelli, qui est professeure titulaire au département de sociologie de l'Université Laval, spécialiste des usages de l'Internet, le scandale Facebook Cambridge Analytica n'a rien d'étonnant et démontre plutôt le décalage extraordinaire entre ce qu'est véritablement la plateforme sociale et la perception de ses utilisateurs. Les gens ont pris l'habitude d'utiliser Facebook et ils ont fini par perdre de vue que ce n'est pas un service public. C'est une entreprise commerciale, explique-t-elle. C'est comme si on découvre aujourd'hui ce qu'on aurait toujours dû savoir, c'est-à-dire que la marchandise, c'est nous, que même lorsqu'on répond à un quiz niaiseux, on fournit des renseignements personnels. Le grand défi de Facebook, dans la foulée de l'annonce de ses nouvelles mesures de sécurité, c'est la vigilance que le géant du web social devra exercer au quotidien contre différentes menaces, estime Bruno Guglielminetti, qui est blogueur de moncarnet.com. Selon lui, seul l'avenir dira si les moyens déployés par Facebook porteront leurs fruits. Mais pour l'heure, force est de constater qu'ils mettent en œuvre des verrous sur toutes les informations qu'ils peuvent obtenir des tiers. Et c'est assez fascinant. Fanny Lévesque, La Presse Plus du 5 avril, sur les mesures, les ajustements de Facebook.
Merci beaucoup, Francine. Les Voix de service magazine, ça se poursuit encore après cette courte pause, donc restez avec nous.
Thank you.
Now I Know, que nous chantait The Hey Babies.
Je poursuis mon introduction de Nicolas Langelier de ce magazine Nouveau Projet sur le thème de la qualité de vie. Au cours des siècles précédents, d'innombrables penseurs de la modernité, de Francis Bacon à Walter Gropius, avaient prédit cette abondance à venir. Ils avaient aussi imaginé qu'elle nous libérerait du travail acharné, des caprices de la nature, des mauvais tours des dieux. Les machines, en démultipliant nos efforts, allaient nous permettre de consacrer davantage de temps aux choses importantes. La vie spirituelle, par exemple, les grands mystères de la vie et de la mort. Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. Si la modernité a désenchanté le monde, pour parler comme Max Weber et Mylène Farmer, nous avons tenté de nous réenchanter nous-mêmes, en redoublant d'ardeur dans la poursuite des délices en tout genre. Nous vivons à l'ère de la bucket list sans fin, sur laquelle nous pouvons avec satisfaction rayer des éléments au fil de nos aventures. Je parcourais récemment l'une de ces listes tenues par l'auteur d'un site sur le Haig, l'art de vivre danois théoriquement porté sur les joies humbles et les petites choses, nommer aux Four Seasons de Bora Bora, piloter un avion, posséder une édition originale du Petit Prince, visiter la baie de Gaspé, se sentir sophistiqué, acheter un ukulélé accompli en novembre 2017, avoir une literie en lin naturel de Belgique accompli en 2014, travailler pour un OSBL accompli en 2012 et des dizaines d'autres objectifs qui, on l'imagine, s'ajoutent plus facilement qu'ils ne se rayent. Notre vie parfaite tourne autour de nos trois obsessions actuelles, la nourriture et l'alcool, les soins du corps et le sexe. Elle englobe une large gamme d'activités et de pratiques, du yoga au voyage à Medellin, en passant par les coquets marchés fermiers et les cafétérias foodies dans des entreprises cool. Et quiconque a passé un peu de temps sur les applications de rencontres est hautement conscient de ce passe-temps favori d'une majorité de gens semble maintenant se faire une bonne bouffe avec du vino. Autant de manifestations de ce que Gilles Lipovetsky appelait l'esthétisation du monde. Une mutation du capitalisme ayant enfanté, dit-il, un consommateur hédoniste esthétique perpétuellement à l'affût de changements. De sensations qui peuvent compenser le stress ou apporter des plaisirs renouvelés. Nous sommes maintenant des drogués au nouveau, et il n'y a pas de limite à la recherche d'expériences sensibles et surprenantes. Cette quête peut facilement virer à l'absurde. La semaine dernière, à la recherche d'une activité à faire par un samedi glacial, nous sommes tombés sur les forfaits proposés sur un site d'un spa estrien. L'une de ces expériences sensorielles, déjà légendaire, promettait un enveloppement exfoliant royal du corps au café et au chocolat fondant, mini-soins visage, balnéothérapie accompagnée d'un verre de cidre, massage gourmand à quatre mains accompagné de cubes de fruits frais pressés. Cette escalade n'est pas sans rappeler une autre des obsessions de notre époque, la porno. L'essayiste américain Marc Grief estime ainsi que notre culture est devenue pornographique à tous les niveaux de sa structure narrative. Elle cherche constamment une expérience qui ira plus loin que la précédente, de manière toujours plus poussée et extrême. Nous vivons dans l'appétit permanent de quelque chose qui trompera notre vague à l'âme et à la monotonie d'un massage sans cube de fruits. Au fond de nous, il y a cette tendance à envisager le progrès comme notre vie, une ligne droite sans retour en arrière. Mais si la vie devient vraiment meilleure, comme le laissaient entendre nos centres d'achat et tous les index du monde, pourquoi n'est pas l'impression que nous avons au fond de nous-mêmes? La majorité des sondages à ce sujet sont unanimes. Une majorité de gens sont pessimistes quant à l'avenir du monde. C'est l'une des grands paradoxes de notre époque. Cette impression générale que les choses empirent alors que plein de critiques ont l'air d'indiquer qu'elles s'améliorent. Peut-être que consciemment ou non, nous savons qu'il est fragile ce progrès, et qu'à plusieurs niveaux, en dépit de nos efforts incessants et parfois même désespérés, notre qualité de vie ne va pas dans la même direction, voire pas dans la bonne direction. Nos sociétés sont de plus en plus divisées, polarisées, et nous ne connaissons pas nos voisins. La fréquentation des centres commerciaux a remplacé celle des églises le dimanche, et malgré tous les torts des religions organisées, cela a laissé de grands vides dans notre existence. Nous passons toujours plus de temps dans la circulation, et moins en moins dans la nature ou avec nos amis, ou même avec nos membres de notre famille élargie. Des maladies jadis très rares, comme les infarctus ou le diabète ou le cancer du côlon, deviennent communes. Pendant ce temps, nos sociétés continuent d'être affligées des mêmes problèmes que nous traînons depuis toujours. La corruption, les oligarques omnipotents, le partage inégal de la richesse, le racisme, le sexisme, la xénophobie. Et puis plusieurs de ces développements technologiques qui, dans les médias, semblent améliorer notre vie, auront peut-être des conséquences désastreuses à long terme. « Move fast and break things », nous conseillait Silicon Valley. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ne se réparent pas une fois qu'on les a brisées. L'intelligence artificielle vient tout de suite à l'esprit, ici. C'est un texte de Nicolas Langelier qui introduit cette revue magazine Nouveau projet sur le thème de qualité de vie. Il termine ainsi « Une vie de qualité plutôt qu'une qualité de vie ». Seulement ici, peut-être, est-il possible de combler le vide dans notre âme.
Stressé, dépressif ou dépendant, il suffirait désormais d'activer votre téléphone intelligent pour atténuer ces tourments. En tout cas, c'est ce que promettent des milliers d'applications mobiles. Trop beau pour être vrai? Un psy au bout des doigts, un texte d'Alice Mariette dans Québec Science de mars 2018. Je vous en lis la première partie. Souffrez-vous de dépression? Il y a une application pour ça. Êtes-vous anxieux, stressé? Il y a aussi une application pour ça. En fait, quel que soit votre problème, et même s'il est grave, il y a forcément une appli qui promet de le résoudre. Depuis le début des années 2010, les applications mobiles pour la santé mentale sont en plein essor, à tel point qu'il est impossible d'en faire un décompte précis dans les boutiques en ligne. Tout dépendant des sources, on estime qu'il existait entre 15 000 et 165 000 applications dans le domaine de la santé en 2015. Sur ce lot, environ 25 % sont en lien avec la santé mentale. Il en existe donc plusieurs milliers et c'est le fouillis total, lance Stéphane Gay, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et l'offre répond à la demande. Déjà, en 2010, des chercheurs australiens révélaient que les trois quarts d'un groupe de 525 participants sondés en ligne étaient prêts à utiliser un téléphone intelligent pour l'évaluation et l'autogestion de leur santé mentale. Chez nous, près de 32 % des Canadiens ont déclaré avoir recours à une ou plusieurs applications mobiles pour surveiller les aspects de leur santé. Peut-on lire dans l'étude « Diffusion de la santé connectée au Canada » publié en septembre 2017 par InfoRoute Santé du Canada. Parmi les personnes interrogées, 14 % ont utilisé ces outils pour suivre leur humeur, leur état émotionnel, gérer leur stress et 36 % pour mesurer leur sommeil, entre autres. A priori, rien de mal à cela. Sauf que la plupart de ces mHealth apps, telles qu'on les désigne en anglais, ne sont pas testées scientifiquement et n'ont fait l'objet d'aucune validation empirique. L'arrivée massive de ces nouvelles technologies a donc de quoi faire frémir les professionnels de la santé. Le nombre d'applis est phénoménal, surtout pour le stress. Ils vous apprennent à respirer, à écouter, à passer du temps avec votre chien ou que sais-je encore. toutes sortes de choses sans aucun fondement scientifique, déplore Pierrick Pluskoelek, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Et au moment du téléchargement, personne n'est là pour guider le patient. On trouve tout et n'importe quoi, confirme Stéphane Bouchard, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique à l'Université du Québec en Outaouais. Je peux inventer quelque chose sur les phases de la Lune pour guérir la dépression, mettre ça sur l'App Store, le vendre une pièce et faire fortune. Il faut dire que créer une appli digne de ce nom en santé mentale demande un travail titanesque, car la validation scientifique devrait, en théorie, se faire avec autant de rigueur que pour n'importe quel médicament. Un processus long et coûteux, bien connu des chercheurs, mais que des concepteurs n'hésitent pas à précipiter pour répondre à leurs objectifs financiers. Une étude menée par l'économiste de la santé et chercheur à l'Université de Liverpool, Simon Lay, révèle que seulement 15 % des applications mobiles en santé mentale recommandées par le National Health Service britannique s'appuient sur des preuves empiriques. En outre, l'organisme américain Autism Speaks observe que sur les quelques 700 applications offertes aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme et leurs familles, seule une quarantaine ont recours de façon systématique à la recherche et la grande majorité n'est basée sur aucune étude. L'ennui, c'est qu'une application mal conçue peut faire perdre du temps car la personne ne veut pas chercher l'aide dont elle a réellement besoin, explique Marc Lanovaz, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Puis, des recommandations peu claires ou mal comprises peuvent renforcer l'intensité de certains comportements problématiques. Cela étant dit, tous les concepteurs ne sont pas sans scrupules scientifiques. Prenez les trois jeunes fondateurs de la start-up montréalaise Mr. Young. Ils développent un robot conversationnel sur Facebook Messenger qui dialoguerait avec les utilisateurs pour les aider à faire face au stress et qui favoriserait l'accès aux soins. Nous n'avons aucune connaissance scientifique, admet d'emblée Arthur Degan, cofondateur qui vient du monde de la finance. Qu'à cela ne tienne, leur outil ne sera pas lancé sans l'approbation du monde de la recherche. Voilà pourquoi les fondateurs se sont rapprochés de centres comme le laboratoire Santé mentale des jeunes et technologies situé au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ils ont dû aussi adapter leur discours. Pas question de parler de traitement ou de diagnostic, terme réservé aux professionnels, mais plutôt d'accompagnement et de support. Cela prend du temps et de l'énergie, convient Édouard Ferron-Mallette, cofondateur. Malgré tout, ses collègues et lui n'en oublient pas les impératifs financiers. C'est beau de faire de la recherche, mais sans un côté business, ton produit n'ira jamais très loin, lance Arthur Degan. En effet, concevoir une appli coûte cher, parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais comme le dit Réal Labelle, qui est professeur de psychologie à l'UQAM, nous n'avons pas le choix, le numérique est arrivé et nous devons tenter de l'intégrer en santé mentale. Un psy au bout des doigts, première partie dans Québec Science de mars 2018.
Dans le magazine Nouveau Projet, il y a toujours la section Correspondance. C'est la section ouverture où on présente des correspondants à travers le monde ou à travers le Canada. Il y en a 8, 4 au Canada, 4 ailleurs à la planète, qui nous donnent des nouvelles de leur coin du monde. Et je commence par vous parler de la mascotte en Oman. Le destin scellé du sultan. Oman, c'est où? Il est de ces pays dont on ignore presque tout, jusqu'à leur localisation. Avec des voisins aussi turbulents que l'Arabie saoudite, l'Iran et le Yémen, il est surprenant que ce sultanat ne fasse pas davantage la manchette. Oman, c'est la Suisse du Moyen-Orient, un acteur diplomatique qui a choisi la non-ingérence et le non-alignement comme ligne directrice de sa politique extérieure. Au sein de ce pays désertique, bordé par la mer d'Arabie, la paix règne. Et un homme est crédité de cette stabilité, le sultan Qaboos. Les éditrices blancs de Mascate, la capitale, sont tapissées d'innombrables effigies de souverains dont la barbe blanche trahit ses 77 ans. C'est grâce à lui qu'Oman a pris le chemin de la modernité il y a 47 ans, lorsqu'il a chassé son propre père du pouvoir pour mettre la nation sur les rails de son épanouissement. Dans une sorte de révolution tranquille, à l'omanaise, la population s'est soudainement vue éduquée, les infrastructures développées et l'or noir intensivement exploité. Autre originalité par rapport à cette région belligérante, les tensions religieuses y sont marginales. Le pays est de confession ibadite, une branche plus tolérante de l'islam qui autorise la cohabitation de plusieurs religions. Les femmes ont le droit de travailler, de voter, de divorcer. L'homosexualité, pourtant prohibée par la religion, est peu réprimée. Le sultan Qaboos étant lui-même divorcé et presque ouvertement gay. Pourtant, tout n'est pas rose dans cette monarchie absolue. Le souverain cumule les plus hauts pouvoirs. Les mœurs demeurent relativement conservatrices et de grandes inégalités persistent entre Omanais et étrangers. Mais ces ombres au tableau ne semblent pas empêcher le peuple d'adorer son sultan. Surtout qu'à l'heure actuelle, celui-ci se meurt. À son décès, il incombera aux membres de la famille royale de choisir son successeur. S'ils n'y parviennent pas en 3 jours, ils ouvriront une enveloppe scellée que le sultan Qaboos a laissée au palais royal avec le nom de son dauphin ou les deux noms selon les rumeurs. Cette mise en scène qui s'apparente davantage à un épisode de télé-réalité qu'à un processus politique nous rappelle qu'Oman n'est pas un État démocratique malgré les avancements des dernières décennies. Marche en avant ou régression, quelle direction prendra ce sultan? Peu importe les spéculations, puisque l'avenir de ce pays est déjà scellé. Et c'est Geneviève Albert, qui est réalisatrice et sénatrice pour le cinéma et la télévision, qui nous parle de ce bout de pays. Elle est présentement en train de travailler sur son premier long-métrage de fiction.
Alors, les états d'âme de Catherine Matisse dans sa chronique Technopop, c'est dans Québec Science de mars 2018 sur le courriel « Je t'aime, je te hais », c'est son titre. Cessons de nous leurrer. Vider la boîte de réception entièrement est une utopie. Certains téméraires y parviennent parfois, mais ce n'est qu'une question d'heures. Moi, j'ajouterais 2 minutes avant que le compteur affiche à nouveau des dizaines de courriels non lus. Il s'échangera cette année plus de 280 milliards de courriels dans le monde. Cela équivaut à environ 121 par jour pour un travailleur moyen, qui seront lus, pour la plupart, sur un appareil mobile. Le courriel est devenu, au fil du temps, indétrônable. Depuis ses débuts en 1971, il a subi les assauts de la messagerie instantanée, des réseaux sociaux, et des Slack de ce monde, c'est-à-dire les plateformes collaboratives, sans jamais vaciller. Nous serons 3,8 milliards d'utilisateurs en 2018, dépassant de loin le nombre d'abonnés à Facebook. C'est aussi plus que le nombre total d'utilisateurs du web. C'est notre technologie de communication préférée, celle qui rassemble. La majorité des gens ont déjà envoyé un courriel au moins une fois dans leur vie. Même tante Marguerite. Ce qui est gratuit et facile à utiliser. Chaque période de nos vies trouve son adresse courriel. Et on les accumule. On s'attache à ces bonnes vieilles adresses Hotmail qu'on refuse d'éliminer. Elles sont là depuis longtemps, comme des témoins fidèles de certains de nos plus grands secrets. Le courriel fait partie de notre identité. Il complète nos coordonnées. En fait, il serait parfait si ce n'était de son infrastructure désuète et de ses problèmes de pourriel. Plus de la moitié des messages reçus tombent dans cette dernière catégorie. Mais on dirait qu'on lui pardonne ses fautes, parce qu'en fin de compte, ce sont nos attentes qui constituent le pire écueil. Les nôtres, mais aussi celles de nos proches, de nos collègues, de nos patrons. Envoyer un courriel, c'est exiger une réponse, le plus vite possible. C'est devenu tellement ingérable que la France a décidé d'encadrer la pratique du courriel. Avec sa loi sur le droit à la déconnexion, les salariés d'entreprises de plus de 50 employés ne sont plus tenus de répondre à leurs messages en dehors des heures de travail. Intéressant. Bon, je vous laisse. Pendant la rédaction de cette chronique, 23 courriels sont apparus. Catherine Matisse, je t'aime, je te hais, cher courriel, dans Québec Science de mars 2018.
Je vous lis une dernière correspondance monde avant qu'on se laisse. Une société civilisée se prépare pour le référendum. En Nouvelle-Calédonie, une île du Pacifique Sud, située à 2 heures d'avion de Sydney et d'Auckland, cohabitent plusieurs populations. Les Kanaks, qui vivent le plus souvent en tribu, les Caldoches, descendants des Bagnards, les Oreilles, venus de France, les Calédoniens, nés en Calédonie, mais qui ne sont pas des Caldoches, les communautés vietnamiennes, wallisiennes, vanustaises, tahitiennes. Pourtant, fin 2018, cette collectivité française de près de 160 000 habitants au statut particulier devra se prononcer sur son indépendance. Ce référendum d'autodétermination prévu au plus tard en novembre est l'aboutissement d'un long processus de négociation qui remonte à 1975. À cette époque, les Kanaks, peuple premier de l'île, estimaient être les seuls à pouvoir décider de leur avenir. 40 ans après, à quelques mois du scrutin, la situation n'est pas encore très claire. Mais un accord historique a été trouvé à Paris pour élargir le corps électoral. Les 11 000 natifs identités sont désormais inscrits d'office sur les listes référendaires. Lors de ses vœux pour l'année 2018, le haut-commissaire représentant de l'État français en Nouvelle-Calédonie se voulait fédérateur. « Ce qui vous rassemble est plus solide que ce qui vous sépare », a-t-il déclaré. L'avenir le dira, et c'est Noémie Debeau-Ducloyer, qui est journaliste et photographe, qui travaille présentement pour la rédaction parisienne et qui nous parlait de cette bout du pays, la Nouvelle-Calédonie, qui devra faire face à un référendum malgré les diversités de sa population. Les Voix de Service Magazine, ça se termine. On est vendredi 6 avril. Bon week-end à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Francine, d'avoir été là.
Bien, ça m'a fait plaisir, Catherine, d'être avec vous ce matin. Et bon week-end à vous aussi.
On se retrouve aussi avec Hélène vendredi prochain. À bientôt, tout le monde.